Bonjour Georges Jugeux.
Bonjour.
Dès les premières lignes de votre livre, vous plantez le décor dans ces termes. Le 24 novembre 2020, en plein milieu de la seconde phase de confinement, l'indice Dow Jones a dépassé le cap de 30 000 points pour la première fois, au grand plaisir et dans le délire de Wall Street. Depuis sa chute brutale en mars 2020, l'indice a augmenté de plus de 100%. Ignorant les conséquences structurelles d'une pandémie qui a fait vaciller la planète, l'année boursière aura été une démonstration grandeur nature de la déconnexion des marchés financiers par rapport à l'économie réelle. Nous en sommes donc là. Les marchés financiers et l'économie réelle sont aujourd'hui deux mondes différents.
De plus en plus. Et on s'en rend compte chaque fois qu'il y a, par exemple, des nouvelles dont on se dit « mais elles vont corriger la bourse ». Par exemple, les banques centrales décident de ne plus acheter autant d'obligations d'État. La bourse ne bouge pas. Les résultats des entreprises ne sont pas au rendez-vous. La bourse ne bouge pas. C'est toujours le même multiple. Il y a véritablement maintenant un sentiment profond que j'ai qu'il y a tellement d'argent. Et c'est le paradoxe parce qu'il a été injecté par les banques centrales et par les gouvernements avec l'endettement. Il y a tellement d'argent qui s'investit que finalement, quand la bourse baisse de 1% ou de 2%, c'est considéré comme une opportunité d'achat et les gens remettent de l'argent et ne se posent absolument pas la question de, j'allais dire, la perspective à long terme. Or, pour les actions, c'est la perspective à long terme qui compte.
Ouais, pour mieux comprendre, vous remontez dans le temps et vous expliquez que cette idéologie du capital américain, née à l'université de Chicago en 1970, a engendré la suprématie absolue de l'actionnaire. Les entreprises ont, depuis 1970, bénéficié d'une réduction de l'impôt des sociétés de 75%. Il rapporte moins de 10% des revenus des États de l'OCDE. Et, expliquez-vous, il a donc fallu taxer les revenus du capital et la consommation, à savoir donc le contribuable. Donc c'est le contribuable qui finance tout ce système.
Alors aujourd'hui, nous sommes partis. Pratiquement trois quarts du financement, ce sont les salaires et la consommation, c'est la TVA. Et donc c'est de là que l'argent vient, et effectivement, aux États-Unis, c'est 6,8%. Donc on est devant une situation dans laquelle le monde des entreprises a réussi à obtenir des réductions de taux et également des réductions d'impôts, plus des subsides, tout ça au nom de la mondialisation, alors que finalement, ceux à qui ça a profité sont les actionnaires.
Une fois en place, dites-vous, les élus sont débiteurs des groupes d'intérêt qui ont financé leur accession au pouvoir. C'est donc aujourd'hui un système de dépendance quasiment dans lequel se trouvent les responsables politiques. Alors c'est peut-être spécifique aux États-Unis, ça.
C'est particulièrement important aux États-Unis puisqu'on a eu un Citizen Act qui a supprimé les limites. En France, il existe encore des limites dans certains pays européens.
Sous passe-passe, d'ailleurs, en France.
Exactement. Ouais. Mais il y a des moyens beaucoup plus subtils que simplement le financement des campagnes qui fait que le monde des entreprises et le monde de gouvernement, ou les gouvernements et même le Parlement, vont aller dans le sens qui convient aux entreprises. Quand vous diminuez le taux des impôts, c'est une décision souveraine. Donc c'est une décision d'État, c'est pas quelque chose qui est né, mais ça arrange évidemment extraordinairement bien les entreprises. J'ajoute que il y a une connexion à laquelle il faut faire très attention, c'est que la rémunération, les fameux bonus, etc., des dirigeants, elle est calculée par rapport au cours de bourse, pas nécessairement par rapport à la performance.
Ouais.
Donc ils ont tout intérêt à faire bouger le cours de bourse.
Ouais. Vous parlez beaucoup de la dette dans votre livre.
Oui.
Et vous dites que ce sont les citoyens, finalement les ménages, qui sont sous la menace de cette dette. Pour quelle raison ? Et est-ce que là, la situation est comparable en Europe à celle des États-Unis ?
Alors malheureusement, l'endettement aux États-Unis a explosé récemment, on est à près de 110%, mais la pandémie a fait augmenter la dette européenne qui dépasse les 90% du PIB. Mmh. Donc on est dans une situation où malheureusement la tendance est la même, et j'ajouterais que la Banque Centrale Européenne est allée beaucoup plus loin que la Banque Centrale Américaine dans la mesure où elle a accepté des taux d'intérêt négatifs.
Que répondez-vous à ceux qui disent que les dettes souveraines, finalement, on ne les rembourse pas?
Alors, il y a deux arguments qui sont dits. Le premier, que ça ne se rembourse pas, C'est vrai jusqu'au moment où ça ne passe plus. Alors, le moment où, à un moment donné, vous ne trouvez plus des acheteurs. Je vais donner un exemple. Aux États-Unis, 35% de la dette américaine était détenue par des investisseurs étrangers, particulièrement des grands centres. Des banques centrales, on est à 25% maintenant, la différence a été prise par la banque centrale. Bon, donc ce système-là est un système qui s'auto-nourrit. Par contre, il y a un élément dont on ne parle évidemment jamais, c'est la charge budgétaire que représente. Et ça, c'est chaque année, c'est dans le budget de chaque année. Alors aujourd'hui, avec des taux d'intérêt extrêmement bas, ça ne pèse pas lourd, mais est-ce que nous sommes dans un système dans lequel les taux d'intérêt vont rester bas pour toujours? Non. Et à ce moment-là, ça va faire très mal parce que on s'attend aux États-Unis à ce qu'un tiers du budget américain serve à financer la dette.
Pour sortir de cette situation dont vous dites qu'elle menace la démocratie, vous appelez à un changement complet de perspective. Les entreprises, dites-vous, doivent notamment se libérer du dogme de la primauté des actionnaires. Aujourd'hui, il est vrai que certaines grandes entreprises rémunèrent leurs actionnaires à des taux qui sont complètement fous par rapport à ce qu'on peut trouver sur des marchés plus raisonnables.
Absolument. Et un des exemples les plus clairs, c'est que vous allez avoir un rendement négatif sur les obligations, oui. Ou un rendement pratiquement de 1% aux États-Unis, mais vous avez depuis 10 ans une bourse qui a quadruplé. Alors que le produit national brut par habitant n'a pas augmenté, les salaires n'ont pas augmenté. Donc les faits sont là. Il y a une chose, moi, qui m'aura toujours frappé et qui frappe beaucoup, je crois, l'opinion publique, c'est qu'une entreprise qui met à pied 10 000 personnes parce que, etc., ne va pas avoir les foudres du marché. Au contraire, le cours va monter. Par contre, si elle touche aux dividendes, alors là, elle est mise au rencard.
D'un mot, où placez-vous dans cette réflexion sur un capitalisme plus éthique, où placez-vous la question de l'évasion fiscale, voire de l'optimisation fiscale dont on a... ces jours-ci, une nouvelle illustration avec les révélations du Consortium international des journalistes d'investigation.
Alors, il y a la fraude fiscale, il faut l'appeler par son nom. Ouais. La fraude fiscale est une action criminelle qui est passible des tribunaux, de la prison, etc. Et celle-là est absolument intolérable. Il y a une existence de paradis fiscaux et il est évident que la population est particulièrement heurtée. Quand elle connaît les personnes, elle se dit comment telle personne peut le faire. Je voudrais mettre les choses en perspective. Les plus grands optimisateurs fiscaux, ce sont les entreprises. Rien qu'aux États-Unis, ça représente un trillion ou un billion et demi, c'est-à-dire pratiquement un tiers du déficit, des revenus de l'État. Donc, il y a une optimisation fiscale qui est devenue intolérable. Et c'est pour ça que Joe Biden et maintenant le G20 se sont lancés dans une réforme fiscale.
Voilà, un trillion, c'est 3 000 milliards de dollars. Merci.
En effet.
Merci, Georges Jugeux. Bonne journée.
Merci à vous.